Chapitre 19. Il se passa encore plusieurs semaines. Je grandissais et forcissais à vue d'œil. Quelque part, au fond de moi, je savais que mon séjour ici ne pouvait durer éternellement et que j'étais, pour ainsi dire, en sursis. Mais j'avais trop peu d'expérience du monde pour deviner ce qui m'attendait. Ce fut un testament. Un soir que nous étions dans le jardin, nous vîmes le docteur Marlowe revenir du travail, une lettre à la main. Il nous raconta quelques anecdotes à propos de sa journée, puis ordonna à ses filles de rentrer dans la maison et s'assit près de moi sur la pelouse. « Daniel, le testament de ta mère a enfin été authentifié par le juge. » Je le dévisageais, l'air interdit sans doute, car Mrs. Marlowe avait beau affirmer que j'apprenais vite, j'étais loin d'avoir les connaissances d'un homme de loi. « Toutes ces affaires ont été réglées, m'expliqua-t-il. J'aurais aimé pouvoir te dire que tu n'avais aucun souci à te faire sur le plan financier, mais malheureusement, comme je le redoutais, ce n'est pas le cas. Nous n'avons trouvé aucun argent caché, et tout ce que ta mère possédait a dû être vendu pour payer ses dettes. Autrement dit, il ne te reste plus rien. » Jusqu'alors, je n'avais jamais pensé une seule fois à mon héritage, mais manifestement, le docteur Marlowe attendait que je dise quelque chose. Alors je demandais « Rien ? Rien du tout ? Rien qui ait de la valeur. » Il regardait fixement le gazon entre ses genoux repliés. Elle avait déjà perdu tant de choses dans sa vie que nous n'avons pas eu le cœur de lui ôter son alliance après sa mort. Il ne reste donc que la maison de poupée et un petit souvenir que ta mère avait sur elle quand on l'a emmenée à l'hôpital. C'est pour toi. Il fouilla dans sa poche. Un joli petit objet. Mon cœur chavira lorsqu'il le sortit. C'était l'étui en ivoire, pas plus long qu'un doigt, dans lequel ma mère rangeait ses crochets de dentelle. J'avançai la main pour le prendre et la retirai aussitôt. Mais est-ce qu'il était dans sa poche quand... Je ne pus achever ma phrase. Le docteur Marlowe s'empressa de me rassurer. « Non, non, l'infirmière en chef l'a trouvée cachée dans un feston de la robe de ta mère, le jour où elle est arrivée à l'hôpital. Craignant qu'elle ne l'utilise comme une arme pour se mutiler, elle l'a rangée au fond d'un tiroir, et on l'a oubliée. Mais quand on l'a retrouvée, je le confesse, j'ai demandé à l'infirmière en chef de le remettre soigneusement en place, jusqu'à ce que les huissiers aient fini leur saisie. » Il serra ma main dans la sienne. « Je me suis dit qu'une fois le testament authentifié, tu serais content qu'il te reste au moins un petit souvenir de ta mère. » Un minuscule souvenir. Je dévissai le petit bouchon et fis glisser les crochets dans ma main. On eût dit quatre jolies allumettes. « C'est tout ce qu'il me reste d'elle ?»« Pour l'instant, » répondit-il d'une voix très mystérieuse. « Mais nous avons bon espoir de trouver autre chose de bien plus substantiel. » Peut-être s'attendait-il à ce que je le presse de questions, que ce que je le presse de m'en dire davantage, de me révéler son secret. Pourquoi il avait fait peindre la maison de poupée, et dans quel but? Mais j'aurais été incapable de feindre la moindre reconnaissance quant à ses efforts pour me trouver un autre foyer. Je remis les crochets en place, revissai le couvercle et fourrai le petit étui d'ivoire tout au fond de ma poche. Puis, l'ayant remercié de sa prévenance, je partis précipitamment. Mais je restai sur mes gardes. Un matin, depuis le palier du premier étage, je vis le docteur ouvrir une des enveloppes posées sur le plateau d'argent du guéridon dans le vestibule et en sortir une autre du tiroir. Il ouvrit cette dernière, la lut entièrement, puis leva la tête. Me voyant en train de l'observer, il me dit légèrement gêné « Bonjour, jeune homme. » Je descendis et le suivis dans la pièce où le petit déjeuner était servi. Le docteur se pencha pour murmurer quelque chose à l'oreille de sa femme avant qu'elle ne récitât le bénédicité. Ce fut un repas étrangement agité. Sophie lançait des regards intrigués tour à tour à son père et à moi, qui semblaient faire la tête. Même l'imperturbable Mrs. Marlowe avait l'air troublée. Comme d'habitude, Marie et Cécilia bavardaient sans relâche, faisant leur plan pour la journée. Mais sans doute avaient-elles remarqué qu'il se tramait quelque chose, elles aussi, car elles ne furent pas du tout surprises lorsque le docteur se tourna vers moi et me dit « Viens dans mon bureau, Daniel, il faut que nous parlions de ton avenir. » Je le suivis, tête basse, comme un veau qu'on mène à l'abattoir. « Allons, allons, » me gronda-t-il, dès que nous fûmes seuls. « Les nouvelles sont bonnes, enfin, pas trop mauvaises. Nous avons retrouvé la maison qui a servi de modèle pour ta maison de poupée. » Il avait l'air si fier que, n'y tenant plus, je lui lançais. « J'aurais préféré que vous ne la trouviez jamais. Est-ce loin ? Oh oui, je parie que c'est loin. Sûrement à l'autre bout du pays, sinon nous en aurions entendu parler plus tôt. Et on va m'envoyer dans une famille qui ne me connaît pas, qui ne veut pas de moi, et je ne reverrai plus jamais personne de chez vous. » Consterné, il posa les mains à plat sur son bureau et me dévisagea longuement. Nous gardâmes longtemps le silence. Finalement, elle murmura presque. « Daniel, je n'avais pas le choix. Il était moralement de notre devoir d'essayer de retrouver ta vraie famille. Pourtant, vous avez caché les crochets de dentelière, l'accusai-je, et vous avez fait revenir la maison de poupée ici, avant qu'on ne la vende pour payer l'épicier. Alors pourquoi vous êtes-vous servi d'un tout petit indice que je vous avais donné pour entreprendre toutes ces démarches ?» J'en avais trop dit. Il haussa les sourcils. Tu savais ? Tu étais au courant de l'annonce que j'ai fait passer dans maison de campagne ? J'étais au courant pour la peinture, avouai-je de mauvaise grâce. J'ai vu le magazine et je devinais le reste. Ce n'était pas le moment. Et le docteur le savait fort bien de me réprimander pour avoir fouiné dans son bureau. Il laissa donc passer et tenta une fois encore de me réconforter. Daniel, ça pourrait te faire le plus grand bien. Je me plais ici. Il soupira et attendit. Mais je n'avais rien de plus à dire. Je gardais la tête baissée. Au bout d'un moment, le docteur Marlowe prit un ton plus professionnel. Il me tendit une lettre en disant « Ceci vient d'une femme qui était autrefois la receveuse des postes d'un petit village appelé Illingworth. » J'attendis. « Cela se trouve dans les Downs, » ajouta-t-il. Je ne disais toujours rien, il insista. « Les Downs sont des massifs calcaires situés dans le sud du pays, près de la côte. À des dizaines de milliers de kilomètres d'ici ?»« 300 kilomètres, » admit-il. « Écrivez à cette dame, l'implorai-je. Dites-lui que le peintre a raté son tableau et qu'elle a dû se tromper. » Daniel, elle dit que le tableau est la copie conforme d'une propriété nommée Highgates et que lorsqu'elle est partie s'installer à Londres il y a plusieurs années, elle appartenait à un certain Mr. Severn.
« Severn ? »
Comment aurais-je pu cacher ma stupéfaction ? Le docteur Marlowe se pencha en travers du bureau pour me dévisager plus intensément et me demanda intrigué. « Tu connais ce nom ?» Je secouai la tête. D'abord Séverin et maintenant Severn. La vague ressemblance avec le jeu de lettres inventé par Sophie ne pouvait pas être une simple coïncidence. Non, 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 docteur Marlowe, je ne connais personne de ce nom-là. Pourtant, j'étais très mal à l'aise. Mon trouble venait-il de ce que je ne jouais pas franc jeu avec cet homme qui avait été si bon pour moi? Ou plutôt du fait que je savais d'ores et déjà qu'une raison plus profonde m'avait amené à mentir? Le docteur haussa les épaules. Mon interlocutrice dit que ce capitaine Severn... De nouveau, il me vit tressaillir. N'avions-nous pas nommé notre nouvelle poupée capitaine, la première fois que nous avions joué avec? Le docteur Marlowe s'interrompit pour me lancer accusateur. Tu le connais? Tu connais cette personne?
Non, je vous assure que non!
Obligé de me croire, le docteur haussa les épaules. Ma correspondante, reprit-il, dit que ce capitaine avait une sœur qui aurait aujourd'hui l'âge de ta mère. Elle s'appelait Liliana. Il se pencha vers moi. Est-ce que tu comprends? Cela signifie que tu aurais un oncle encore vivant. Maintenant, essaye de te souvenir, Daniel. Ta mère ne t'a-t-elle jamais parlé d'un frère? L'image de ma mère à genoux ressurgit dans ma mémoire et protégeait mon cher petit Daniel et son oncle Seux. Une prière tronquée à peine audible, qui provenait peut-être simplement d'un rêve, pouvait-elle être une preuve supplémentaire de l'existence d'un frère? Certainement pas. Non. Et j'allais m'efforcer aussi d'oublier ce que j'avais lu à propos des délires nocturnes de ma mère à l'hôpital. Je ne voulais pas de cet oncle. « Jamais !» répondis-je donc avec assurance. « C'est étrange que... » murmura le docteur. Son regard suspicieux donna encore plus de poids à l'argument que j'avançais ensuite. « Et même si cet homme avait quoi que ce soit à voir avec moi, je suis certain que ma mère se serait farouchement opposée à ce que l'on me renvoie dans un lieu qu'elle était si déterminée à oublier. » Je vis que cet argument avait fait mouche, mais il s'entêta. « Daniel, c'est ton parent par le sang !» Je ne devais pas laisser passer cette chance. Je fis le tour du bureau, et tout comme Sophie aurait pu le faire, je me jetai à son cou. « Oh, je vous en supplie, ne me renvoyez pas. Vous savez bien que je ne veux pas partir. Pourquoi vous et les vôtres ne me gardez-vous pas? Je gagnerai ma vie, je vous rembourserai chacune des bouchées de pain dont vous m'avez nourri. N'ai-je pas déjà eu assez de malheur dans ma vie? Ne me renvoyez pas. » Il essaya de m'écarter de lui en me maintenant à bout de bras. « Daniel, pendant tout un temps, j'ai pensé... » Pas question de le laisser finir. « Je vous en prie, le fait que j'ai perdu ma mère devrait suffire à éveiller la pitié d'un oncle. Je suis certain que ce capitaine Severn me laissera le choix entre vivre avec lui et rester avec vous. » Je crus avoir trouvé un compromis qui lui semblait valable. « C'est possible. » Le docteur me donna une petite tape sur l'épaule et essaya de me dérider avec une plaisanterie. « N'importe qui n'est pas prêt à accueillir chez lui des ouragans d'émotions comme ceux que tu es capable de soulever. » Puis il redevint grave. « Toutefois... » Je dois tout de même lui écrire.
Non, pas tout de suite. Attendons que je sois assez grand pour choisir moi-même.
Mais le docteur Marlowe avait repris son air sévère.
« Daniel, c'est ton oncle. »
Et étant actuellement ton tuteur, maintenant que j'ai appris son existence, je me dois de l'informer de la tienne. »